Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. L'événement du moment, c'est le grand salon Santexpo, organisé par la Fédération Hospitalière de France, les 17, 18 et 19 mai au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Très attendu après les années Covid, ce salon accueillera plus de 20 000 professionnels de santé venus de France et de toute l'Europe d'ailleurs, et même d'ailleurs. Et c'est le thème d'ailleurs cette année, le thème de l'Europe. Zeynab Riyad, déléguée générale de la FHF, Fédération Hospitalière de France, va nous donner envie d'y participer. Conférences, ateliers, réalité virtuelle, robotique. Et parmi les différentes animations, il y aura le village des architectes. Et Emmanuel Ladet, architecte associé chez Sceaux Atlas In Fine, sera avec nous pour nous dire comment l'architecture s'adapte en permanence pour le bien-être des patients. Enfin, Étienne Mercier, directeur du pôle Opinion et Santé chez Ipsos, nous révélera le résultat d'une enquête sur les problèmes d'accessibilité des patients aux professionnels de santé. Sans oublier bien sûr la chronique de Rémi Teston. Check-up santé, l'événement santé hebdomadaire, c'est parti. Zeynab Riyad, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France depuis 2017.
Oui.
C'est quand même, ça fait un bail quand même, c'est bien.
C'est très bien, oui.
Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait la fameuse école EHSP.
C'est oui.
C'est l'école des hautes santé publiques, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et aux études en santé publique.
Tout à fait.
La FHF, c'est un gros paquebot quand même, non?
Oui, c'est un très gros paquebot qui regroupe tous les hôpitaux publics, depuis les centres hospitaliers universitaires jusqu'aux hôpitaux de proximité, mais également les établissements sanitaires et médico-sociaux et les EHPAD publics.
Oui, on dit que la moitié des EHPAD...
plus de 50% sont de notre secteur, effectivement.
Voilà, la FHF s'est dirigée par Frédéric Valtou,
qui est le président
actuel, que j'ai invité au moins 10 fois dans l'émission. Est-ce qu'elle a su ou est-ce qu'elle va s'adapter, la FHF, au changement de paradigme qui s'impose à l'hôpital pour améliorer l'attractivité, pour lutter contre la pénurie, pour collaborer avec le privé? Ça fait beaucoup de questions.
Oui, tout à fait. Alors, la Fédération Hospitalière de France, c'est d'abord des femmes et des hommes, au même titre que les professionnels de santé. Donc, qui s'inscrivent dans leur temps, mais aussi qui anticipent. Et donc, il ne vous a pas échappé qu'effectivement, ces deux années de pandémie ont mis en évidence les difficultés que vivent les métiers de la santé en matière d'attractivité, de parcours professionnel. Et le rôle de la FHF, c'est justement, et grâce à ce fameux salon, d'organiser autour, avec les professionnels, avec les industriels, des thématiques, des conférences pour donner envie et attirer vers les métiers de la santé grâce à la technologie, grâce aussi à toutes les innovations dans ce secteur. Et Dieu sait qu'il y en a.
Donc après deux années de Covid, de distanciel, un petit retour au présentiel l'année dernière, là c'est le grand retour du présentiel, Santexpo.
Ah oui, Santexpo 2022, c'est à plein présentiel, c'est plus de 600 exposants. Vous l'avez dit, nous attendons plus de 20 000 participants, et puis c'est plus de 200 prises de parole. Donc c'est vraiment un événement extrêmement important, et nous avons cette année deux nouveautés. Un bloc opératoire augmenté, donc 100% à la fois digital, robotique, cobotique, intelligence artificielle, et qui va permettre de montrer à l'ensemble des professionnels de santé, notamment aux chirurgiens, aux infirmiers anesthésistes, aux anesthésistes, aux infirmières de bloc opératoire, tout ce que l'on peut faire grâce à la robotique, à l'intelligence artificielle et à la cobotique dans un bloc opératoire.
Alors le salon est labellisé présidence française du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Mais ça veut dire que à la fois nous avons cette chance que la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qui nous permet de mettre en valeur l'innovation française, l'innovation européenne, les métiers de la santé, mais également de tirer le leçon de ce qu'a pu faire l'Europe en matière de santé. Vous savez que ce n'est pas une prérogative majeure de l'Europe en matière de santé, et pour autant, nous avons vu que durant cette crise, les Européens ont tout fait pour se concerter, travailler ensemble, protéger la santé des populations, et notamment faire d'énormes efforts en matière d'industrialisation, en matière de santé.
Donc on disait un des thèmes de ce salon, c'est l'Europe?
Oui, le fil rouge de ce salon, et peut-être pourrions-nous dire que l'Europe de la santé serait peut-être est-elle devenue la nouvelle frontière de l'intégration européenne ?
Oui.
La santé qui fédère ?
Pourtant, il y a des choses à faire. Hein,
oui.
Pour uniformiser la santé en Europe, pour...
Oui, en partant peut-être de ce qui nous rassemble aujourd'hui, nous l'avons vu, l'innovation, tout ce qui relève de l'industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux. Mais nous savons aussi qu'en matière de santé, il est bon d'avoir une espérance de vie qui augmente. Mais tant qu'à faire, cette espérance de vie doit augmenter sans incapacité et en bonne santé.
En bonne santé, évidemment. Elle stagne un petit peu ces dernières années.
Eh bien, en France, nous ne sommes pas le meilleur des élèves. Hein.
Oui. Il y a aussi la formation.
Et oui.
Qui doit, elle aussi, être un petit peu, un peu moins hétéroclite et, pour pouvoir accueillir et laisser des médecins partir, des professionnels partir dans toute l'Europe.
Tout à fait. À la fois le brassage de professionnels, à la fois le contenu pédagogique de ces formations, et puis penser les métiers de la santé de demain. Et à l'échelle européenne, en tirant les enseignements à la fois des bouleversements et des mutations de pratiques professionnelles en matière de santé, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la e-santé. Et puis, tout de suite derrière, on voit très bien des enjeux éthiques, des enjeux juridiques comment...
Avec les progrès technologiques, bien sûr.
Exactement. Et donc, autant les penser tous ensemble.
Bien sûr. Et c'est la mission un petit peu de Santé Expo, de mettre au grand jour tous ces progrès, tous ces résultats de progrès technologiques, dans tous les sens. Donc, comment ça se passe Il va y avoir, donc, évidemment, des conférences, des plénières.
Tout à fait. Alors, se réunissent à un salon professionnel. Donc, se réunissent dans ce salon à la fois les industriels, les équipementiers, les acteurs de la restauration, les hospitaliers, mais pas que, les acteurs aussi du monde libéral.
Ce n'est pas que hospitalo-centré.
Non, c'est ouvert. C'est tout l'écosystème santé et tout l'écosystème industriel, pharmaceutique. Il y aura le LEM présent, vous l'avez dit, le village des architectes. Une autre nouveauté, c'est un village des 32 centres hospitaliers universitaires français. Ce sera pour eux l'occasion de mettre en valeur tout ce qui est fait en matière d'innovation, en matière d'enseignement, en matière de recherche dans les centres hospitaliers universitaires et en matière d'attractivité. C'est un lieu aussi de retour d'expérience et un lieu où on co-construit ensemble et on co-développe entre acteurs du secteur privé, acteurs du secteur public, acteurs de la ville, acteurs de l'hôpital et des autres lieux d'exercice.
Donc collaboration public-privé, ce n'est pas une utopie ?
Pas du tout.
C'est efficace ?
Alors, ça pourrait être encore plus efficace. Ça a bien été amorcé dans le cadre de la crise. Et là, en tout cas, en termes de retour d'expérience, nous partageons exactement les mêmes questionnements, qu'ils soient éthiques, de progrès ou juridiques.
Bon, on souhaite bonne chance à votre salon.
Ah oui, merci beaucoup.
Alors, on a cité les architectes justement présents dans votre salon. Ça tombe bien, puisque la prochaine invitée participe à votre événement dans le village des architectes. C'est Emmanuel Ladet, architecte associé du cabinet So Atlas Infine. Merci beaucoup, Reinhard Riette, délégué général de la FHF. Vous nous invitez à votre salon ?
Ah, bien volontiers.
Santé.
Bien volontiers.
Bon, on fera peut-être plus l'année prochaine.
Entendu, avec
merci
plaisir.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Emmanuel Ladet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, associé du cabinet So Atlas Infine.
Oui.
On peut le dire, qui vient de la fusion, c'est ça, de deux cabinets ?
De trois même.
De trois cabinets,
oui,
d'accord.
So Atlas Infine.
Ah oui, So Atlas Infine.
Eh oui.
Donc gros cabinet d'architecture.
Belle agence, on va dire, oui.
Oui.
Plus de 100 personnes.
Plus de 100 personnes.
Et 20 associés.
Dont vous, et un cabinet qui travaille évidemment dans plein de domaines d'expertise.
13 secteurs d'activité,
ouais.
Dont la santé.
Dont la santé,
la
qui représente une belle partie quand même.
Oui, 20% de l'activité, donc voilà, c'est une branche qu'on développe depuis plus de 20 ans maintenant.
Plus de 20 ans, et c'est vrai que quand on pense à architecture, dans santé, hein, on pense à construction de grands hôpitaux, de grands édifices, mais en fait, il n'y a pas que ça.
Pas que.
Par exemple ?
Pas que, c'est un écosystème très large, donc hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, on en a parlé, maisons d'accueil spécialisées, personnes handicapées, personnes âgées.
Et puis blocs opératoires.
Bah, des blocs, bien sûr, des blocs.
Opératoires, services d'urgence.
Des urgences, voilà, des stérilisations, plein de choses.
Donc ça va du gros œuvre jusqu'à presque l'architecture d'intérieur.
complètement.
Oui.
Et ce qu'on peut traiter d'ailleurs dans le cadre de notre agence.
Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'architecture, hein, qui a suivi les modifications, évidemment, tous ces petits bouleversements santé de...
Je dirais qu'il y a
une
accélération très très forte du secteur et qui a un impact évident sur nos bâtiments. Dans les crises majeures, on vient d'en vivre une et elle n'est pas tout à fait terminée, c'est notamment le Covid.
Oui.
Je dirais que nous, on est en anticipation permanente, on parle d'établissements modulaires, on travaille à ce que, en effet, les établissements soient le plus adaptables à ces situations. Donc ça, c'est un des enjeux primordiaux, mais à différents stades. C'est-à-dire que sur le secteur hospitalier, les cliniques, là, on est plutôt sur des choses très techniques. Et puis sur le secteur médico-social, on est plutôt sur une approche lieu de vie domiciliaire. Donc voilà, des dimensions très différentes.
D'accord. L'ambulatoire a changé un peu la donne ou pas, non ?
Complètement.
Oui.
Complètement. L'ambulatoire a bousculé les établissements. La place du plateau technique qui est le cœur du réacteur des établissements a une importance fondamentale. Ça génère énormément de flux. Donc voilà, il faut que le cœur du réacteur soit directement accessible. Mmh. Et puis on essaye aujourd'hui de sortir l'hospitalisation complète. On parle d'hôpital. D'hôtels hospitaliers permettant de faire des séjours préparatoires à l'ambulatoire pour éviter de payer des chambres d'hôpitaux qui sont extrêmement chères. Il y a des accompagnants. Voilà. Donc on se rend compte que l'hôpital, au fur et à mesure, il se fragmente pour mieux d'ailleurs se recomposer. Et nous,
Vous adaptez aussi même au type de patient même.
Au type de patient, on répond aussi finalement à des demandes qui vont se décliner à différentes échelles au cœur de l'urbanisme. C'est-à-dire que les gros hôpitaux sont plutôt à l'extérieur, ils ont des besoins de foncier très importants, mais il y a aussi besoin de petites structures de proximité qui sont plus près de la ville et des quartiers. Donc on se rend compte que finalement la santé, elle se décline à plusieurs échelles dans différents lieux.
Alors ce qui aussi compte de plus en plus, c'est l'aspect environnemental.
L'aspect environnemental a toujours été présent, il est encore plus présent avec ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à l'énergie. Et on sait que l'hôpital est un gros consommateur, donc il faut trouver des solutions pour réduire les consommations d'énergie. On y travaille.
Bilan carbone. Vous êtes dessus.
Voilà.
Alors vous êtes présent à Centexpo, hein.
Oui.
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs.
Non.
Dans le village des architectes. Quelle est un petit peu cette mission de ce village?
Alors, c'est une très belle initiative qui regroupe une trentaine d'agences, toutes spécialisées dans le secteur de la santé. Donc pour certaines d'ailleurs...
D'agences d'architecture.
L'avantage, c'est que là, on est tous regroupés, on peut
se battre.
Non, nous sommes concurrents, mais nous sommes aussi, là pour partager les bonnes pratiques. Il y a une agora, on est là pour justement s'exprimer, pour que nos clients viennent nous voir, pour rencontrer nos partenaires. Et ça crée une synergie tout à fait intéressante et une intelligence collective intéressante.
Oui. Et qu'est-ce que vous apportez aux gens qui viennent sur ce village? Je sais que vous travaillez entre vous, vous échangez entre...
Il peut y avoir des collaborations, on peut parler de projets futurs. Nous-mêmes, nous nous immergeons dans le secteur, puisque ce grand salon nous permet aussi de connaître et de comprendre les innovations au niveau des équipements, puisque l'architecte, certes, intervient sur les murs, mais doit être au courant de comment on travaille, quels sont les équipements qui vont être intégrés. Donc c'est...
Pour améliorer votre réseau aussi.
Bien sûr.
Alors, est-ce que vous inspirez un petit peu de l'étranger ou pas? Il y a des choses différentes à l'étranger?
L'étranger est une source très très importante et c'est important d'ailleurs de sortir de nos frontières. Les pratiques sont différentes, mais les réglementations aussi sont différentes. Donc c'est vrai que parfois on aimerait faire certaines choses qu'on ne peut pas totalement...
En fonction des réglementations qui diffèrent.
Exactement.
Oui. Il y a deux choses encore, évidemment, nouvelles, qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois, c'est la pénurie de matériaux et l'augmentation des prix qui va avec.
Eh bien, on le prend de plein fouet, on s'adapte. C'est une donnée d'entrée. On essaye de trouver d'autres solutions. On peut reporter certains appels d'offres, on peut diminuer certains projets ou repartir sur d'autres modalités de projet. C'est sûr que là, c'est une donnée qu'il faut intégrer.
Et qui risque de ne pas s'améliorer
Allez, je suis plutôt optimiste.
On va dire
que ça va redémarrer à un moment donné. Enfin, de toute façon, ça ne s'est jamais arrêté. Et au contraire, je dirais que l'activité, même en santé, elle s'accélère. Mmh. Et là, c'est très lié aussi au Ségur de la santé, parce que les besoins sont là. Donc, on y répond. Et donc, on va y arriver, j'en suis sûr.
J'en suis sûr aussi. Merci beaucoup, Emmanuel Oladé, architecte associé du cabinet SO, Atlas Infine. J'ai dit les trois.
Merci beaucoup.
Merci, à très bientôt. On viendra vous voir sur le village des architectes. Alors, avant d'accueillir Étienne Mercier de chez Ipsos, on va boire les paroles de Rémi Teston, patron de Buzz e-Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi Teston, bonjour.
Bonjour Fabien.
Patron de Buzz e-Santé, tout roule ?
Tout va bien.
Bon, prêt pour les trophées BFM de la santé ?
Voilà, prêt pour les trophées mardi.
Alors, on va commencer par trois points. Là. On va commencer par le lancement du collectif MentalTech.
Exactement, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'avec la crise sanitaire, la santé mentale devenait un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est près d'un Français sur cinq qui est atteint de pathologies, alors à différents niveaux évidemment.
On n'est pas dépressif au dernier degré, non ?
Oui. Voilà. Et du coup, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont lancé des solutions de e-santé dédiées vraiment à la santé mentale, et ils ont une volonté finalement de se regrouper pour essayer de faire entendre leur voix, de développer aussi les usages et de faire en sorte qu'il y ait finalement ce sujet qui soit pris en compte par les autorités publiques et faire en sorte que ça devienne un sujet majeur de santé publique.
Ouais. Elle commence à avoir pignon sur rue, ces startups
Alors, la plupart des startups sont déjà présentes depuis un certain temps, mais elles avaient besoin finalement de se regrouper pour avoir une force plus importante vis-à-vis notamment des échanges avec les autorités.
Alors, deuxième point, les startups digitales se mettent au service de l'expérience patient.
Exactement, ça c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis le début de l'année, l'expérience patient qui devient vraiment centrale pour le développement de toutes les solutions e-santé ou même tout simplement dans la vie des centres hospitaliers et autres. Et un certain nombre de startups qui émergent sur ces sujets. On peut citer notamment une startup lyonnaise qui s'appelle Entends-moi, qui développe des solutions d'intelligence artificielle où ils vont aller repérer tous les verbatim patients, tout ce qui peut revenir finalement des témoignages patients et les centraliser, les mettre à disposition des centres hospitaliers ou de tout autre porteur de projet. Il y a également une startup qui s'appelle Tomo, qui propose justement de prendre rendez-vous avec des patients aidants. Pour justement des patients qui sont aussi en difficulté et d'avoir justement ce partage d'expérience qui est souvent recherché par des patients pour avoir l'expérience de ceux qui ont vécu ou qui vivent la même chose.
On avait d'ailleurs invité le fondateur de Tomo, Arthur Maisonnier.
Exactement, et puis une autre start-up qui est intéressante, c'est Les Patients S'Engagent, qui là, ils ont une vocation à mettre en avant, finalement, via des témoignages, toutes les initiatives patients qui sont réalisées sur tout le territoire, dans toutes les régions, quel que soit le niveau, et pas toujours portées par des grosses associations ou des grosses structures.
Alors enfin, donc la start-up du mois, qu'on va essayer d'un petit peu de refaire tous les mois. La start-up du mois, pour vous, c'est qui ?
Alors pour moi c'est Synapse Medicine qui existe déjà depuis quelques années. C'est une start-up bordelaise qui travaille sur tout ce qui est le bon usage du médicament. Alors très axé au départ sur le bon usage côté professionnel de santé. Ils travaillent notamment beaucoup avec l'ANSM, avec des centres hospitaliers, sur également tout ce qui est la pharmacovigilance, enfin tout ce qui est le bon usage au sens large. Et ils ont lancé une application qui s'appelle GoodMed pour accompagner justement les patients à mieux décrypter les notices, puisqu'ils sont aperçus qu'il y a finalement c'est quelque chose qui est très utilisé par les patients, mais il y a toujours des problèmes de décryptage. Elles ne sont pas toujours très faciles à lire. Et donc, c'est une application qui permet de décrypter, finalement, tout ce qui concerne un produit de santé. Et on peut aussi le connecter avec son propre profil santé pour, justement, voir les compatibilités, etc.
Donc, le patient vraiment au centre,
exactement.
Au centre de l'univers santé.
Voilà, le bon usage du médicament côté patient.
Merci beaucoup, merci Rémi,
merci
à la prochaine chronique. On va à présent accueillir Étienne Mercier, qui est directeur du pôle Opinion et Santé chez Ipsos.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Étienne Mercier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez le pôle Opinion et Santé chez Ipsos. Ipsos, c'est un peu le spécialiste mondial de sondages, des études de marché, comment ça se passe ?
C'est un des plus grands groupes mondiaux, oui, tout à fait. On est présent dans plus de 80 pays, je crois.
On est par un Français, quand même ?
Exactement, par deux Français, Didier Truchot et Jean-Marc Lèche. Et c'est un groupe, oui, qui est extrêmement important, qui est sur le marketing, comme vous dites, sur l'électoral, sur la satisfaction client, sur plein de domaines, mais aussi sur la santé.
Mm-hmm. Et sur les présidentielles, vous aviez vu juste ou pas?
Ah oui, on avait plutôt vu juste et on s'en est bien sorti. Maintenant, c'est une autre aventure qui commence,
ah
c'est
oui, législatif pour les
et elle est encore plus compliquée.
Encore plus compliquée, oui. Alors aujourd'hui, vous nous donnez les résultats d'une enquête très récente sur les problèmes un peu d'accessibilité des patients aux soins. Aux soins, vu par les médecins d'ailleurs, et vu par les patients français. Vous vous êtes intéressé, comment ça s'est passé cette étude, un petit peu le format d'étude?
C'est toute l'originalité du dispositif, c'est d'interroger un échantillon représentatif de français et donc de patients, et puis un échantillon représentatif de médecins généralistes, et
français,
de voir comment... Oui, français bien entendu, et de voir comment ils voient aujourd'hui la situation en termes d'accessibilité.
D'accord, et vous êtes intéressé surtout à quatre lieux de santé.
Exactement.
C'est ça, le laboratoire d'analyse médicale, le centre d'imagerie médicale, le cabinet médical et les hôpitaux et cliniques.
Tout à fait.
Oui. Et donc, à partir de là, donc,
On a
vous avez essayé de chercher, alors, vous avez cherché à voir comment les gens percevaient, c'est ça, leur problème d'accessibilité au...
Tout à fait.
Système de soins,
tout à fait. Ce que montre l'enquête, en gros, c'est on sait qu'il y a des problèmes d'accessibilité, on sait que les Français les perçoivent et les connaissent. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord à quel point, pour ce qui est des hôpitaux et des cabinets médicaux, la situation s'est encore aggravée. Et là, on les fait parler hors Covid, que ce soit pour les médecins généralistes qui nous parlent, qui considèrent que sur ces infrastructures-là, il y a une aggravation des problèmes d'accessibilité. Et donc, c'est grave. Mais on voit un problème qui se gangrène petit à petit, puisqu'il commence maintenant à toucher les centres d'imagerie médicale et les laboratoires de biologie médicale sur lesquels, pour les Français comme pour les médecins généralistes, il y a des problèmes d'accessibilité qui sont en train d'arriver.
Et donc, ces problèmes sont ressentis aussi bien par les professionnels de santé, par les médecins que par les patients?
Oui, il faut savoir que les médecins généralistes aujourd'hui font un constat quand même assez terrible. On a 6 médecins généralistes sur 10 qui nous disent que leur territoire, là où ils exercent, est soit en cours de désertification médicale, soit est déjà un désert médical. On n'a donc plus que 4 médecins sur 10 qui considèrent que là où ils sont implantés, ça va encore à peu près. On peut avoir accès, quand on est un patient, aux infrastructures médicales.
Ce qui est incroyable, c'est que l'Île-de-France devient un des premiers déserts médicaux
tout
en
à
France.
Fait.
Est-ce que les gens sont prêts, dans votre enquête, vous posez la question, est-ce que les gens sont prêts à déménager pour se rapprocher des structures de santé?
Alors, c'est la nouveauté sur laquelle on a voulu les sonder, c'est est-ce que finalement ces sujets-là sont en train de jouer sur l'endroit où on s'installe? Et pour le coup, alors c'est encore minoritaire, heureusement, mais on a 3 Français sur 10 qui nous disent qu'ils envisagent de déménager si la situation continue à s'aggraver. On a véritablement, pour le coup, un véritable problème de maillage territorial qui va faire que des Français vont bouger d'un endroit à l'autre pour avoir une meilleure accessibilité.
Et vous disiez, ce problème d'accessibilité, c'est le même pour les hôpitaux, pour les cabinets, pour les centres d'imagerie et pour
il est plus grave, bien entendu, pour les hôpitaux et pour les cabinets médicaux, mais c'est ce qu'on a déjà vu. Là, pour le coup, le constat est très majoritaire de la part des médecins généralistes. Ils le voient, ils le perçoivent. Mm-hmm. C'est le même côté français, d'ailleurs, ils voient aussi. Là où la nouveauté, c'est que ça commence à arriver sur les centres d'imagerie médicale, avec des médecins qui nous disent que ils ont des problèmes d'accessibilité pour que leurs patients trouvent aujourd'hui des rendez-vous dans les délais qu'il leur faut pour faire leurs examens. Et aussi, pour 41% des médecins, il y a des problèmes aussi d'accessibilité dans les laboratoires de biologie médicale.
Alors, on parle de financiarisation de certaines catégories professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, financiarisation?
Pour le coup, c'est la crainte qu'ont les Français, les médecins aujourd'hui, de plus en plus, c'est de voir finalement le système de santé se financiariser. Donc, ils craignent, bien sûr, cette financiarisation des laboratoires de biologie médicale, puisque c'est sur ce sujet qu'on avait été interrogés. Mais j'ai envie de dire, ils le craignent pour tout. C'est pour eux le début de la fin, un petit peu, et c'est une peur très, très forte chez les médecins généralistes.
C'est pas le cas encore chez les médecins, ni chez les pharmaciens.
Non, pas encore, pas encore. Mais voilà, on voit cette crainte-là et elle est réelle. Après, à quoi elle correspond exactement, c'est plus compliqué à voir.
Alors justement, pour les laboratoires d'analyse biologique, c'est vrai que le problème, c'est le patient et son accès parfois à ses résultats et surtout l'interprétation. C'est ce qui ressort de votre étude?
Oui, alors ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait des années qu'on nous dit que le patient doit être acteur de sa propre santé. Et c'est vrai, on essaye de le mettre en place dans plein de domaines dans la santé et on y arrive. S'il y a bien un sujet sur lequel on n'y arrive pas, eh bien finalement, c'est ce moment des patients qu'ils vivent, qui est celui lorsqu'ils vont dans un laboratoire de biologie médicale pour des examens. Et quand on les interroge, que ce soit avant leurs examens, que ce soit pendant ou après, il y a ce sentiment de la part des patients, des Français, de ne pas être informés sur ce qu'on va leur faire, sur comment ça va se dérouler exactement, et puis surtout sur les résultats des examens médicaux. Beaucoup de Français disent qu'ils aimeraient pouvoir parler juste après avoir les résultats, pouvoir avoir au moins une petite analyse. Oui. Ils ne l'ont que très très rarement, et ils considèrent qu'ils sont hors du système. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, il y a seulement 25% des Français qui sont capables de décrypter leurs analyses médicales. Il y a quand même un souci sur ce sujet-là.
Et encore. Et dans l'étude, est-ce que l'étude peut montrer que un laboratoire qui appartient à un groupe a un peu moins de temps pour expliquer les résultats aux patients par rapport à un laboratoire indépendant?
L'enquête ne le montre pas. En revanche, ce qu'elle montre, c'est que les patients aujourd'hui ont de très fortes attentes.
Quelles sont ces attentes alors?
Alors, ils ont de très fortes attentes sur le fait qu'on les informe de comment les examens vont se dérouler. C'est quelque chose qui leur pose véritablement problème. Qu'on les informe aussi après les examens sur qu'est-ce qu'il y a dans ces analyses lorsqu'ils le souhaitent. Il y a beaucoup de Français qui vont faire des examens médicaux et qui ont peur. Il faut savoir qu'il y a 25% des Français qui nous disent je retarde ou je ne fais pas mes examens médicaux parce que j'ai trop peur d'y aller. Donc il faut prendre en compte cette peur. Il faut aussi, et ce qu'ils attendent, c'est que on prenne en compte les publics particuliers qui existent, ceux qui justement, les 38% de Français qui disent qu'ils ont très très peur de faire des examens médicaux, ceux qui sont aussi handicapés, qui ont des problèmes d'accessibilité dans les laboratoires médicaux, les enfants aussi qui sont assez mal pris en charge apparemment, c'est ce que montre l'enquête, par les laboratoires de biologie médicale lorsqu'ils viennent. Et il y a des attentes très très fortes d'une prise en charge plus forte, plus importante de l'ensemble de ces publics-là.
Merci beaucoup Étienne Mercier, merci beaucoup de la société Ipsos. Je vous rappelle, mardi soir, les Grands Prix de Check-up Santé de la Santé. C'est mardi soir sur BFM Business.